Bien, bonjour à tous et à toutes. Nous allons poursuivre aujourd'hui notre étude de la parole de Dieu avec ce thème sur l'Église, une Église debout, toujours debout, une Église qui vit l'Évangile. Mais juste avant de lire notre texte en 1 Thessaloniciens chapitre 4, quelques nouvelles de Madame Banos qui s'est cassé le poignet cette semaine. Elle a été opérée et elle est rentrée chez elle. C'est notre doyenne. Elle n'était déjà pas très en forme ces derniers temps. Pensez à elle. Pensez peut-être à envoyer un petit mot, un coup de téléphone, peut-être une visite, savoir si on peut aider peut-être aussi pendant son rétablissement. Aussi des nouvelles pour notre local. Rien n'est encore fait, donc on est encore sur le grill pour le moment. Et on a un rendez-vous mercredi pour signer l'achat et la vente. Donc on espère que les choses vont se faire cette semaine avant notre départ en Côte d'Ivoire. Voilà. Cherchez, si vous voulez bien, 1 Thessaloniciens, chapitre 4. On va faire la lecture de ce texte. On va couper le chauffage, là. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de la débauche. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans ses affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui nous a aussi donné son Saint-Esprit. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour et à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains, comme nous vous l'avons recommandé. En sorte que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même, un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble, enlevés avec eux, sur les nuées, à la rencontre du Seigneur, dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Je vous invite à prier, si vous voulez bien. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour ta parole. Elle est la vérité. Et tu l'as laissée pour notre instruction, pour qu'on puisse apprendre à te connaître et à vivre ici-bas, à te plaire en toutes choses, Seigneur. Nous te recommandons notre sœur Jeanne Banos, Seigneur. Te demandons pour que tu prennes continuellement soin d'elle, de son époux. Nous te demandons de la porter dans ces jours un peu difficiles qu'elle traverse et d'encourager continuellement son cœur par ton Saint-Esprit, aussi par ta parole. Merci aussi de prendre soin de ton Église ici, Seigneur. On a besoin d'apprendre à te faire confiance en toutes choses, à dépendre de toi. C'est toi qui donne du succès dans nos entreprises, Seigneur. Et nous voulons nous attendre encore à toi, que tu nous délivres de cette situation. Par Jésus-Christ. Amen. Nous voyons ce matin, on a vu une implantation réussie dans le chapitre 1, on a vu une direction réussie dans le chapitre 2, on a vu une église toujours debout dans le chapitre 3. Aujourd'hui, on voit une sanctification réussie. Comment réussir sa sanctification ? John Newton a résumé son progrès dans la vie chrétienne ainsi, et si vous avez suivi les cours découvertes, on a vu ce résumé. Il a dit « Je ne suis pas ce que je devrais être ». C'est-à-dire, on peut tous faire ce constat, nous avons encore de grands progrès à faire dans notre vie de chrétien. Il a dit ensuite, je ne suis pas ce que je pourrais être. C'est-à-dire que par la puissance de l'Évangile et par la présence du Seigneur de Jésus-Christ dans notre vie, nous avons tout ce qui contribue à la vie et à la piété, et nous devrions être plus avancés que ce que nous sommes. Nous ne sommes pas ce que nous devrions être. Et on n'a pas d'excuse. Je ne suis pas ce que je voudrais être. Et ça, c'est aussi vrai. J'aspire à plus de conformité à la personne du Seigneur Jésus, à être plus avancé dans la foi, dans la confiance, dans la dépendance, dans la patience, dans la sainteté. Je ne suis pas ce que je serai un jour. Ça, c'est merveilleux de se souvenir de cela. Un jour, nous serons semblables à lui. Merveilleux. Il va accomplir sa promesse, il va accomplir son œuvre. Il a été fait pour nous, justice, mais aussi sanctification, glorification. On va être semblables à lui. C'est merveilleux de penser à ça. Il va accomplir son œuvre. Oh, on n'est pas encore comme ça, mais il va l'accomplir, il va l'achever. Mais il dit aussi, je ne suis pas ce que j'étais. Et un chrétien doit pouvoir faire ce constat, je ne suis plus ce que j'étais. Il y a un avant, et puis il y a un aujourd'hui, une transformation dans notre vie. Je ne vis plus de la même manière qu'avant, mes pensées ne sont plus les mêmes, mes désirs ne sont plus les mêmes. Il y a eu une transformation intérieure dans mon cœur. Et enfin il dit, par la grâce de Dieu, reprenant les paroles de l'apôtre Paul, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. C'est-à-dire que tous les progrès qui ont été faits dans ma vie, tous les changements, toute la transformation qui a été opérée dans mon cœur, c'est la grâce de Dieu. C'est le secours du Seigneur. On a déjà dit que cette église de Thessalonique connaissait bien des vérités, mais ils ne sont pas arrivés. Pas plus que nous, ils ne peuvent se satisfaire de leur état spirituel. Dans sa lettre, Paul les pousse à rechercher l'excellence spirituelle. Il dit au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Et c'est cela qui nous occupe ce matin. Ce désir, cette passion de marcher de progrès en progrès, de ne pas se satisfaire de ce que nous sommes et de vouloir toujours plus de conformité au Seigneur Jésus-Christ. La sanctification, ce n'est pas quelque chose d'instantané. Personne ne peut dire, ça y est, c'est bon maintenant, terminé, je suis saint, plus de péché. Par contre, toi, non. On a tous progressé, certainement. Et on a tous à progresser encore. La sanctification est progressive. Elle doit être recherchée aussi par le chrétien. Nous sommes en route, alors ne nous arrêtons pas en chemin, poursuivons notre sanctification, puisque c'est là ce que Dieu veut, et ce que Dieu veut, c'est notre bien. Il veut notre sanctification, parce qu'il nous aime, il est désireux de nous voir heureux, alors il poursuit notre sanctification. Alors ce matin, je vous propose de voir d'abord comment il réussir sa sanctification, d'abord comprendre la volonté de Dieu, ensuite on verra pratiquer le véritable amour, et puis enfin vivre avec la juste perspective. On s'interroge souvent sur le plan de Dieu pour nous, pour notre vie. Alors on dit, mais quelles études je vais faire l'année prochaine? Quel est le plan de Dieu pour ma vie? Oh, quel travail est-ce que je dois faire, Seigneur? Quel est ton plan pour moi? Oh, quelle épouse! Quel époux tu as en vue pour moi? Et en fait, Dieu ne répond pas nécessairement à cette question. Parce que il nous a laissé un certain nombre de prérogatives. Il nous a donné de la sagesse. Il nous a donné sa parole. Et il souhaite que l'on se dirige nous-mêmes d'après sa parole, d'après ses préceptes. Et puis, il aime nous conduire par la foi. Il nous laisse faire nos choix. Mais ici, il nous fait connaître, on ne peut plus clairement, sa volonté. Sa volonté, c'est que nous soyons saints. Sa volonté, Dieu veut notre sanctification. Dieu veut que nous soyons saints, c'est-à-dire séparés du péché et consacrés à Dieu. Ça, c'est le deux sens du mot « saint ». Dieu veut que je sois transformé de gloire en gloire à la ressemblance du Seigneur Jésus. Et il use de toutes sortes de moyens pour le faire. Il m'enseigne, parfois il me corrige, il m'éprouve, il me teste, parfois il me fait redoubler. Peu importe mes études, peu importe mon travail, peu importe avec qui je vais faire ma vie, Dieu veut ma sanctification. Pas peu importe en réalité, hein. Mais quel que soit mon travail, quelles que soient mes études, quelle que soit l'épouse que le Seigneur m'a donnée ou qu'il ne m'a pas donnée, Dieu veut ma sanctification. Le premier domaine évoqué par l'apôtre Paul où la sanctification doit opérer, c'est le domaine sexuel. Parce que la société dans laquelle vivent les Thessaloniciens est hyper sexualisée, je ne sais pas si ça se dit, érotisée. Du temps de Paul, les Grecs considéraient avec légèreté tous les péchés sexuels. Il n'y avait pas encore eu l'Évangile pour transformer toutes les sociétés. À leurs yeux, leur dérèglement n'était pas bien grave. Alors il fallait donc exhorter tous ces Grecs, nouvellement convertis à Christ, à abandonner entièrement les pratiques sexuelles pécheresses que leur environnement estimait acceptables. Notre société n'est-elle pas semblable à la société des Thessaloniciens? Et je trouve que la parole de Dieu, elle a une actualité extraordinaire. Dieu connaît tellement bien nos cœurs, la situation de nos vies. Certains prétendent que Dieu est un rabat-joie. Il est vieux jeu, dépassé par notre génération. Rien de tout cela. Lorsque Dieu se prononce sur le sujet de la sexualité, il parle en tant qu'expert, en tant que créateur, en tant qu'inventeur de la sexualité. Et personne mieux que lui ne sait ni combien, ni comment la sexualité peut être profitable. Et Dieu, dans sa sagesse, dans sa bonté envers nous, nous a donné un cadre pour la sexualité. Et le cadre, c'est un cadre intemporel. C'est-à-dire qu'il était parfait pour l'époque de Paul et des Thessaloniciens. Il est interculturel. C'est-à-dire qu'il traverse toutes les cultures, quelle que soit la culture. Dieu a donné un cadre pour la relation sexuelle. Et ce cadre, c'est le mariage. Il me faut préciser le mariage d'un homme avec une femme, chaque mot est important là. Un homme, un seul, et une femme, et dans le cadre du mariage. C'est-à-dire, quelle que soit la société reconnaît le mariage. Que vous passiez devant le chef d'une tribu, devant le maire de votre ville, que vous passiez devant un pasteur, peu importe. Mais un témoignage public, un témoignage et un engagement envers une personne. En dehors du mariage, les relations sexuelles sont catastrophiques. Ce n'est pas ce que le monde vante, mais c'est quand même catastrophique. C'est comme le feu dans une cheminée, c'est magnifique. Dans l'âtre, au coin du feu, tout est bien. On se réchauffe, c'est romantique. Mais sortez le feu de la cheminée. Mettez-le au milieu de votre salon et c'est catastrophique. Et c'est la même chose. Si vous sortez les relations sexuelles du cadre dans lequel le Seigneur les a voulues, eh bien c'est catastrophique. Elles provoquent la culpabilité et la honte. Elles provoquent des querelles et des divorces. Elle provoque des maladies, elle provoque des grossesses non désirées, elle provoque des avortements, des familles déchirées, elle provoque des addictions coupables et dégradantes. Et c'est pourquoi Paul dit, la volonté du Dieu, c'est que vous vous absteniez de la débauche. Et la débauche, ici le mot c'est porneia, mot grec, qui a donné pornographie. Mais il décrit, en fait, ce mot porneia, décrit toutes les formes de conduite sexuelle illicite, c'est-à-dire l'adultère, les relations sexuelles avant le mariage, l'homosexualité, la prostitution, l'échangisme et toutes les nouveautés qui apparaissent. La volonté de Dieu, c'est que chacun sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Là, c'est plus facile à dire qu'à faire, il faut le reconnaître. Que chacun sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Il évoque ici la maîtrise en tout temps des désirs de notre chair, la maîtrise des appétits de notre corps qui est sollicité abondamment par un monde qui est corrompu. J'ai remarqué que de plus en plus, on a besoin de coachs. Il y a des coachs pour tout. Il y a des coachs pour apprendre à manger équilibré. Il y a des coachs pour perdre un peu de poids, il y a des coachs pour faire de l'exercice, pour un coach pour se sevrer d'addiction. Il me semble que c'est un double aveu que fait notre société. Elle reconnaît la nécessité de la maîtrise de son corps, de ses appétits, et elle reconnaît aussi la difficulté d'y arriver. Tout seul, voire l'incapacité de l'homme à y parvenir seul. Et dans le domaine sexuel n'y échappe pas. Mais prenez le bon coach, Jésus-Christ. Dieu veut que nous apprenions à résister à nos convoitises, quelles qu'elles soient, à discipliner nos cœurs et nos corps, même notre bouche, notre langue. Jacques, j'aime ce verset, Jacques il dit que celui qui parvient à maîtriser sa langue, il est un homme parfait. C'est un homme parfait. Celui qui arrive à maîtriser sa langue, c'est un homme parfait. Et il ajoute, et il peut tenir tout son corps en bride. Et la plus grande difficulté est avec notre langue. Mais tenir tout notre corps. Et donc la sanctification, elle va agir là-dessus. Sur notre maîtrise de nous-mêmes, sur la capacité à maîtriser nos pulsions, nos désirs, nos mauvais désirs, et à gérer tout notre corps. La volonté de Dieu, verset 5, c'est que les chrétiens ne se livrent pas à une convoitise passionnée comme ceux qui ne connaissent pas Dieu. C'est intéressant cette pensée-là. Il fait cette distinction, il doit y avoir nécessairement une différence entre le chrétien et celui qui ne l'est pas, entre le croyant et celui qui ne l'est pas. Celui qui ne l'est pas, il est géré par des convoitises passionnées. Vous vous souvenez dans le premier chapitre de Romains, Paul dit que ceux qui ne connaissent pas Dieu sont inexcusables. Ceux qui ne croient pas en Dieu sont inexcusables parce qu'ils ont connu Dieu dans la création. Ils pouvaient reconnaître Dieu dans la création. Mais ils n'ont pas voulu le reconnaître. Ils n'ont pas voulu le glorifier. Ils n'ont pas voulu vivre dans la communion avec lui. Alors Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a livrés à eux-mêmes et à leurs pulsions et à leurs convoitises passionnées. Et on voit toutes, et après il décrit toutes les égarements sexuels des incroyants. Alors on comprend que la volonté de Dieu est tout autre pour celui qui connaît Dieu. Et ça devrait faire une différence sur le plan de notre sexualité que de connaître Dieu. La volonté de Dieu, verset 6, c'est que personne dans ce domaine ne fasse de tort à son frère ou ne porte atteinte à ses droits. Ici, je pense que c'est vraiment lié au verset qui précède. C'est-à-dire, quand il parle de ses affaires, c'est vraiment des affaires, c'est pas le business. C'est les affaires sexuelles, les relations sexuelles. Si un homme commet un adultère avec la femme d'un autre, il use de fraude envers lui. Il a trompé un autre. Sa femme a trompé son mari, mais lui a aussi trompé un autre homme. Il a rusé. Si nous avons des relations sexuelles avec une personne non mariée, non seulement nous causons du tort à cette personne, mais nous en causons également à son éventuel futur conjoint. Et Dieu fera justice à celui qui se conduit ainsi. Ça fait frémir. Et Dieu fera justice. Combien de jeunes filles ont perdu leur virginité parce qu'un loulou a usé de fraude, de ruse ? À profiter d'elle. Combien d'enfants sont nés sans père? Combien ont été avortés? Combien de vies ont été détruites? Le verset 6 dit, et Dieu jugera. Dieu tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà attesté. Dieu a vu et Dieu jugera. Alors, comment mettre en œuvre notre sanctification? On comprend quelle est la volonté de Dieu dans ce domaine. Mais comment la mettre en œuvre? Comment avancer sur le chemin d'une pureté morale? Les versets 7 et 8 nous disent « Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. » Je voudrais d'abord dire, il nous faut nous souvenir que Dieu tire vengeance dans ses affaires. Quelques pages plus loin, dans l'épître aux Hébreux, chapitre 13, verset 4, il est dit « Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de toute souillure, car Dieu jugera les débauchés, c'est-à-dire ceux qui ont des relations avant le mariage, et ça c'est encore le mot pornéa, et puis les adultères, ceux qui trompent leur conjoint. Dieu jugera, Dieu tirera vengeance. On devrait se souvenir de ça. Et je pense que quand on comprend le plan de Dieu, ça nous arrête, ça nous fait frémir, ça nous retient. Et puis, il nous faut aussi rappeler que Dieu est un Dieu de grâce et de pardon. Il ne garde pas sa colère à toujours. Quelle que soit votre vie passée, vous pouvez venir repentant devant votre Dieu, devant votre Créateur, lui demander pardon pour les fautes commises, et puis il vous restaurera, il pardonne. Quand on regarde à Jésus-Christ sur la croix, alors on voit ce que ça a coûté. On voit la colère de Dieu sur toutes ces choses, mais on voit aussi la grandeur de son amour et la restauration possible qui nous est accordée. Et encore, Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Nous avons une vocation glorieuse, et c'est ce qui devrait être dans notre esprit. Dieu a un bel idéal pour nous. Dieu nous a sauvés du péché et de la condamnation, non pas pour que nous y retournions. Si Dieu nous a choisis pour que nous soyons saints, alors engageons-nous résolument à manifester cette sainteté dans notre vie. Je lis en Éphésiens chapitre 1, le verset 4, En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Voilà le plan de Dieu, la perspective divine. Son but qu'il poursuit, c'est notre sainteté. Et il a mis en œuvre l'évangile notre sainteté. Enfin, en verset 8, il nous a dit que Dieu nous a donné son esprit. Et par lui, nous savons ce qui plaît au Seigneur et comment nous devrions vivre. C'est le Saint-Esprit qui éveille en nous ce désir de marcher d'une manière qui honore Dieu, qui lui plaît, qui le glorifie. La vie chrétienne, ce n'est pas une série de choses. Tu ne fais pas, tu ne fais pas, tu ne fais pas, et puis tu fais. La vie chrétienne, c'est une relation. Il dit, dans notre passage, verset 1, comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. C'est ça l'évangile, c'est comment plaire à Dieu. Et notre vie, ça devrait être ça, le désir de plaire à Dieu, d'honorer Dieu. Et c'est ça qui doit nous tenir dans la sainteté. Alors parfois, il y aura peut-être des décisions radicales à prendre. Je pense à Joseph dans la maison de Potiphar, quand la tentation était là de cette femme qui voulait « couche avec moi !» Pas une seule fois, de manière répétée. À un moment, il a dit « non, c'est plus possible !» Il a fui, il a même supporté de drôles de conséquences. Mais il a fui. Et parfois, il y a notre désir de sainteté, notre désir de plaire à Dieu devrait nous conduire à fuir aussi. Alors recherchons ce qui plaît à Dieu. Comprenons sa volonté et recherchons à plaire à Dieu. Ensuite, on verra pratiquer le véritable amour. Et ça, c'est des versets 9 à 12. L'apôtre Paul a instruit les Thessaloniciens du retour de Christ. Si bien que ils attendent avec impatience son glorieux retour, son glorieux avènement. Hein, au chapitre 1, on avait déjà lu au verset 10, hein, qui se sont convertis à Dieu, ils ont abandonné leurs idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Paul avait eu le temps d'instruire le peuple, dit « Maintenant, vous attendez Dieu, il va revenir. » Eux, ils ont saisi cette vérité et ils étaient tellement préoccupés par le retour du Seigneur qu'ils en négligent leur responsabilité temporelle. Au fond, leur enthousiasme pour le retour de Christ a commencé à éclipser leur responsabilité ordinaire, quotidienne, leur travail. Et Paul doit corriger leur idée erronée, un peu comme le Seigneur Jésus l'a fait hein, en Luc chapitre 19. Je voudrais vous lire ces versets en Luc 19, verset 11. Il dit « ils écoutaient ces choses et Jésus ajouta une parabole. » Parce qu'ils étaient près de Jérusalem et qu'on croyait qu'à l'instant, le royaume de Dieu allait paraître. Ah, les disciples, à l'époque, étaient dans la même situation que les Thessaloniciens. Ils disaient, ça y est, voilà, ça va, il va revenir, donc voilà. Regardez ce que dit le Seigneur, verset 12. Il dit donc, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 mines et il leur dit « Faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. » Et ça devrait être aussi notre attitude en tant que chrétien. Plutôt que de dire « Maintenant j'attends le Seigneur, je pars plus au boulot, je m'occupe plus de ma maison, je m'occupe plus de mes affaires, le Seigneur va revenir. » Mais pourquoi tu vas travailler et le Seigneur va revenir? Et plutôt que cela, il dit, faites valoir les talents que je vous ai confiés, les mines que je vous ai confiées. Faites-les valoir. Vivez dans les choses que je vous ai confiées, vivez avec ces choses que je vous ai confiées. Les chrétiens doivent donc poursuivre leur vie de tous les jours et continuer d'assumer leurs responsabilités, et ça jusqu'au retour du Seigneur Jésus. On raconte que Martin Luther disait que si le dernier jour était pour demain, il planterait un pommier aujourd'hui. C'est-à-dire, il continuerait à faire le bien humblement et tranquillement. Et c'est cela le véritable amour de l'avènement du Seigneur. Et Paul leur donne là quatre exhortations pratiques sur la façon d'aimer l'avènement du Seigneur. C'est s'aimer davantage les uns des autres. C'est-à-dire, voilà, on va progresser dans ce domaine. C'est vivre tranquille, s'occuper de leurs propres affaires et travailler de leurs mains. Ils ont appris de Dieu, j'aime cette expression, vous avez appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et c'est ce que vous faites. Vous avez appris de Dieu, vous avez appris en regardant Jésus-Christ crucifié, vous savez comment vous devez vous aimer les uns les autres. C'est-à-dire un amour qui se donne, un amour sacrificiel, un amour total, un amour patient. Et les Thessaloniciens, ils ont appris cela, et puis ils ont vécu comme cela, et ils sont devenus capables d'aimer leurs frères de l'Église, mais également même les frères de toute la région, de toute la Macédoine. Et toute la Macédoine a bénéficié de leur généreuse hospitalité, de leurs gestes bienveillants, de miséricorde. Et ils ont profité de ce service sacrificiel. L'apôtre Paul, en 2 Corinthiens, il dit que les Macédoniens étaient pauvres, les Thessaloniciens étaient pauvres, mais ils ont fait tout ce qu'ils ont pu pour pourvoir aux besoins des autres. Et c'était pour eux une grâce de le faire. C'était un sacrifice, mais agréable à Dieu, c'est-à-dire un sacrifice avec joie qu'ils faisaient. Voilà la manifestation de leur amour. Et bien que l'amour des Thessaloniciens soit exemplaire, il n'est pas parfait. Et Paul dit, ce que je veux maintenant, ce que Dieu veut pour vous, c'est que vous fassiez encore mieux. Fassiez encore mieux. Paul les encourage à mettre un point d'honneur aussi. Et là, le mot, c'est que vous ayez de l'empressement, c'est-à-dire du zèle à vivre tranquille. C'est contradictoire. Soyez plein de... à vivre tranquille. C'est-à-dire, mettez votre zèle à avoir vraiment une vie paisible dans ce monde. C'est-à-dire, une vie avec des relations paisibles avec votre entourage. C'est ça la sanctification. C'est prendre soin de son entourage. C'est d'avoir un bon témoignage dans son entourage. Aimer, c'est vivre en paix. C'est s'occuper de ses propres affaires plutôt que de se mêler des affaires des autres. C'est aimer, c'est aussi travailler de ses propres mains. Et j'aime cette perspective parce que Paul, ici, il valorise le travail manuel. Vous savez, dans quantité de pays, les pays sont dévastés, détruits. Pourquoi ? Parce que le pays a besoin d'agriculteurs, de gens qui vont retourner la terre, mais ils veulent tous être ingénieurs, agronomes. Ils veulent être diplomates. Ils veulent être avocats, médecins. Mais il y a juste besoin de retourner la terre, déjà. Et parfois, on a instruit faussement les gens en disant, voilà, le seul vrai métier, la seule vraie valeur, c'est d'avoir bac plus 12. Non. Dieu veut des gens qui s'appliquent à travailler avec leurs propres mains. Il l'a fait lui-même avec ses propres mains. Et puis, tout cela pour qu'il y ait un bon témoignage. Il est dit ici, afin et à mettre votre honneur à vivre tranquille, en sorte que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors. Et il dit, votre témoignage de vie chrétienne va avoir un impact sur votre entourage immédiat, sur toute la population qui vous voit vivre. Vous voulez évangéliser parce que vous pensez que le retour du Seigneur est proche. Oui, faites-le. Mais vivez une vie tranquille, un témoignage dans votre travail, dans votre vie quotidienne. Soyez comme Luther, plantez un pommier, faites ce que vous devez faire humblement, fidèlement. Et ça porte un témoignage. Quand les croyants font preuve d'application au travail, et vivent dans l'amour et la tranquillité en respectant l'intimité des autres, sans se mêler des affaires d'autrui ou de faire des commérages, ils constituent un puissant témoignage devant les incroyants et rendent l'évangile crédible. Et c'est ça qui est tellement fort. Quand les gens ne veulent pas entendre l'évangile parce qu'ils ont vu quelqu'un qui se dit évangélique vivre n'importe comment, c'est terrible. Mais quand quelqu'un vit paisiblement, tranquille, s'occupant de ses affaires, alors il touche son entourage. Et quand l'occasion est donnée, il peut vraiment... le terrain est prêt pour recevoir l'évangile. Je termine avec ce troisième point, vivre dans la juste perspective. John Newton, comme je vous l'ai lu au début, finit la description de sa sanctification en disant « Je ne suis pas ce que je serai un jour ». Et Paul, ici, il aide les chrétiens de Thessalonique à lever les yeux vers la promesse de Dieu. Il mettra un jour une touche finale à notre sanctification et à notre réunion pour toujours avec le Seigneur. On a besoin d'une juste perspective. Et là, les Thessaloniciens, ils étaient troublés parce qu'ils attendaient le retour du Seigneur. Ils pensaient que voilà, ils allaient tous partir ensemble et... Mais depuis que l'apôtre Paul était parti, il y avait quelques-uns qui étaient morts. Il dit, mais ces gens-là, à quoi ils vont? Ils ne participent pas à l'enlèvement de l'Église, alors, et qu'est-ce qui leur arrive? Et Paul va répondre à cette question-là, vous inquiétez pas, ne vous désespérez pas. Et soyez confiants, votre vie, elle est avec le Seigneur. On a besoin de cette juste perspective, ne soyez pas désespérés, quand l'un de vous meurt. Ici, il dit, quand il parle de décédés, de ceux qui sont décédés, il emploie le mot de ceux qui dorment. Nous ne voulons pas, mes frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Vous vous souvenez de ce passage où, en Actes chapitre 7, Étienne est lapidé par les Juifs de Jérusalem. La Bible dit qu'il s'est endormi. Endormi sous les cailloux. Il s'est endormi. Il a rendu son âme en paix au Seigneur. C'est cela la vie chrétienne. Quand on meurt en Jésus-Christ, on s'endort. Le corps dort. L'âme vit éternellement dans la présence du Seigneur. Et dit, je ne veux pas que vous soyez inquiets au sujet de ceux qui sont déjà décédés. Soyez tranquilles, ils dorment. Leur corps dort. Mais eux, ils vivent éternellement avec le Seigneur. Et nous aussi, un jour, on sera réunis avec eux. Et on ne les devancera pas. Hein. Paul, il pensait que ça pouvait arriver de son vivant. Il dit, nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Non, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous serons enlevés à la rencontre du Seigneur. Oh, bien sûr, on préférerait être enlevés. Ça nous éviterait de dépérir. Et on préférerait être enlevé comme ça plutôt que d'avoir à souffrir la mort, parfois dans une longue maladie. Mais nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. J'aime cette idée que l'Évangile a fait de la chose la plus terrible au monde, pour le monde, c'est-à-dire la mort. Il a fait, par l'Évangile, la chose la plus désirable et nécessaire, il l'assimile au sommeil réparateur dont l'ouvrier fatigué a besoin. S'imaginez la chose. Les gens sont terrorisés par la mort, le chrétien il dit, ça y est, enfin le repos. Enfin le sommeil. La mort a perdu son aiguillon. La mort a perdu sa terreur. Oh, bien sûr, quand on apprend la mort d'un j'ai appris le décès d'une chrétienne de 50 ans hier, brutalement, ah, ça m'a fait un choc. Mais la consolation est immédiate. La peine ou la tristesse que l'on peut connaître, elle est par rapport à ceux qui restent. Comment ils vont faire sans elle, sans elle? Pour les enfants, pour le mari. Et c'est ça qui nous peine, c'est cette déchirure-là qui est forte. Mais il est auprès du Seigneur. C'est ça qui nous console. Donc le Seigneur ne veut pas qu'on soit inquiet au sujet de la mort. On doit vivre dans cette juste perspective. Aussi une juste perspective pour le temps de notre pèlerinage ici-bas. Vivons aujourd'hui comme nous aurions aimé avoir vécu lorsque nous serons devant le Seigneur. Vous savez, parfois on se dit, mais voilà, si j'avais su. Mais j'ai su. Je sais qu'un jour je vais me présenter devant mon Dieu. Je sais comment je devrais vivre. Vivons-le. Vivons-le. Et là où on n'a pas bien fait, revenons à Christ. Demandons pardon. Et puis repartons de plus belle avec lui. Et puis aussi une juste perspective sur notre réunion soudaine avec le Seigneur. Personne ne connaît le jour de l'avènement du Seigneur pour enlever son Église. Paul pensait qu'il le verrait. Mais nous devons savoir une chose, c'est que tous les chrétiens devraient toujours être prêts pour ce jour. Jésus dit, pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce jour viendra. L'apôtre Jean dit en 1 Jean, chapitre 2, verset 28, « Et maintenant, mes petits-enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous n'ayons pas la honte d'être éloignés de lui. » Et puis, un petit peu plus loin, chapitre 3, verset 3, « Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. » La perspective du retour du Seigneur, de l'enlèvement de son Église, ça nous pousse à la sanctification. De l'avoir présent dans notre esprit, cette pensée que Jésus-Christ revient, qu'il peut nous prendre et nous conduire dans sa présence d'un instant à l'autre, ça nous pousse à la sanctification. À quoi le Seigneur nous trouvera-t-il occupés quand il reviendra? À quoi est-ce qu'il nous trouvera occupés? Plaise à Dieu qu'il nous trouve occupés à planter un pommier et à faire humblement le travail que le Seigneur nous a demandé, nous a confié, nos tâches de mère, de mari, de père, d'enfant, d'étudiant, d'employé. Plaise à Dieu qu'il nous trouve à son service. Tout début de ma vie chrétienne, un des premiers enterrements, c'était un vieux serviteur qui est mort. Il allait porter de la littérature. Il avait 80 ans, il portait de la littérature chrétienne à une sœur, et en chemin, il est mort. C'est mourir sur les planches, c'est pas mal. Hein? À quoi le Seigneur nous trouvera occupés? À quoi est-ce qu'il nous trouvera occupés? Peu importe, hein, mais que Dieu nous trouve occupés aux choses qui lui plaisent. Un touriste qui visitait un magnifique parc en Italie demande un jour au gardien, mais disons, c'est magnifique votre propriété là. Vous avez souvent la visite du propriétaire, hein? Ah, il dit, oh, non, pas très souvent, il n'est pas venu depuis 12 ans. Oh, disons. Il vous téléphone tout le temps. Jamais. Non, il ne téléphone jamais. Je ne l'ai jamais au téléphone. Mais qui est-ce qui vous surveille comme ça? Il dit, il y a un gérant, mais il est à Milan. Il vient souvent? Non, jamais. Mais alors, qui surveille vos affaires? Il dit, moi, essentiellement. J'ai rarement de la visite. Il dit, mais pourtant, vous gardez le parc en parfait état. On penserait que vous attendez la visite du propriétaire pour demain. Il dit, non, monsieur, pour aujourd'hui. Pour aujourd'hui, monsieur. C'est ça, notre responsabilité. Vivre comme si le Seigneur revenait aujourd'hui. Il peut nous prendre aujourd'hui. Et il prend tous les jours de ses enfants pour les avoir avec lui. Mais il peut aussi revenir et nous prendre tous. Alors ça devrait produire dans notre cœur cette sanctification. Certains passent des entretiens d'embauche, on leur pose la question. Vous savez, ils ont fait des années et des années d'études, ils ont bac plus 10 et Ils viennent pour trouver un job extraordinaire. Et dans les questions, on leur dit « Où est-ce que vous aimeriez être dans 5 ans ?» Je pensais une question plus difficile. J'aimerais être à votre place. Quel est le but de votre vie ? Quel est le but de votre vie ? Qu'est-ce qu'on doit répondre en tant que chrétien ? Quel est le but de ma vie ? Le but de ma vie, c'est d'être semblable à Christ. Et dans 5 ans ou dans 10 ans, j'aimerais être plus avancé dans ma ressemblance à Jésus-Christ qu'aujourd'hui. Et quelle que soit la vie et le domaine qu'il me confie aujourd'hui, je voudrais que lui ressembler davantage. Et les éléments qui nous sont donnés, c'est de bien comprendre quelle est sa volonté. Et sa volonté, c'est notre ressemblance à Jésus-Christ. Et il va tout entreprendre dans notre vie pour qu'on puisse lui ressembler davantage. Et puis, le véritable amour, c'est d'attendre le Seigneur Jésus-Christ dans cette activité, dans les choses que le Seigneur nous a confiées en tant que père, mère, en tant qu'enfant, étudiant, peu importe. En tant que pasteur, en tant que chrétien, en tant que membre d'église. Et puis enfin, d'attendre, de vivre dans cette belle perspective que nous sommes citoyens des cieux. Nous vivons pour le ciel. Nous vivons avec une plus grande espérance, une merveilleuse espérance, celle d'être dans la présence du Seigneur. Amen.